carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. Quel mélomane ne rêverait pas de remonter dans le temps, se faire petit comme une souris et assister à la classe d'analyse et de composition d'Olivier Messiaen ? Olivier Messiaen a traversé l'histoire de la musique avec une agilité, avec une aisance déconcertante. Il produisait des analyses fines, drôles, colorées, forcément, avec Messiaen. De Péléas et Mélisande de Debussy, qu'il comparait à Monteverdi, du Sacre du printemps de Stravinsky, dont il tirait des personnalités rythmiques. De Don Giovanni de Mozart, qu'il rapprochait des œuvres d'André Jolivet. De Chopin, dont il reconnaissait des éléments d'électroacoustique. C'est dire l'éclectisme de ses goûts et l'originalité de son approche. Pas de segmentation par genre chez Messiaen, mais une approche surtout rythmique et un grand sens de la résonance harmonique. Et puis, la classe de Messiaen présente d'autant plus d'intérêt qu'elle a été suivie par des monstres sacrés de la musique du XXe siècle, Boulez, Xenakis et Stockhausen en particulier. De 1947 à 1978, c'est ainsi toute la musique d'après-guerre, musique sérielle, musique concrète, qui coïncide dans la classe de Messiaen. Et le compositeur avait assez de largesse de vue, semble-t-il, pour accompagner ses élèves dans toutes ces nouvelles esthétiques. Lui, qui avait une écriture si forte, si personnelle, il laissait entière liberté à ses élèves, sans dogmatisme. Alors, pour aborder Olivier Messiaen, pédagogue, nous avons invité à Canal Académie le confident de Messiaen, critique musical et journaliste, Claude Samuel. Bonjour Claude.
Bonjour.
Samuel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez connu Messiaen dès les années 60, vous avez notamment écrit un livre d'entretien avec Messiaen qui est publié en 1967, donc juste après sa nomination à la classe de composition au Conservatoire de Paris. Est-ce que Messiaen était investi d'un rôle de pédagogue, d'une mission d'enseignement ?
Quand on lui a posé la question « Pourquoi la pédagogie est rentrée dans votre vie ?», il répondait « Il y avait enfin deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il faut gagner sa vie quand on est compositeur, et que mieux vaut la gagner de cette façon que de faire de la mauvaise musique de film. Donc ça ne l'intéressait pas du tout, effectivement. Et la deuxième chose, c'est que finalement, il avait une grande curiosité par rapport aux œuvres du passé. Parce que tout à l'heure, quand vous avez prononcé le nom de classe de composition, en fait, il a toujours récusé ce terme. Pour lui, c'est une classe d'analyse. Avant la guerre, il y a eu une première classe, non pas au conservatoire, mais à la Scala Cantorum, dans les années 35-36. Il a, pendant quelques temps, enseigné l'harmonie. Et puis, après la guerre, il a continué l'enseignement. En fait, ça a été un peu une coupure, comme pour beaucoup de personnes, bien sûr, la guerre. Il a été fait prisonnier en juin 40. Il n'est pas resté prisonnier très très longtemps. À son retour de captivité, au mois de février-mars 41, il ne savait pas très bien quoi faire. Sauf qu'il avait envie de composer, naturellement. Et il se trouve qu'il y avait un poste qui était disponible au Conservatoire de Paris. Donc, il a été candidat, il a été pris dans ce poste.
Donc, et professeur d'harmonie. Hein.
Oui, mais ça a été très, très vite. Ça a été avec le directeur de l'époque, qui était Claude Delvincourt, qui était un homme vraiment admirable. Ils ont décidé de faire une classe qui s'appelle la classe d'analyse. Et puis cette classe ensuite a eu différents titres, et à un moment donné on a dit à Messiaen, oui mais vous êtes un grand homme maintenant, analyse c'est quand même un peu réducteur, on va vous nommer professeur de composition. Et puis il a dit, si ça vous fait plaisir, moi je veux bien, mais il m'a souvent dit, pour moi je faisais la même chose, j'ai fait de l'analyse. On ne peut pas enseigner la composition, on peut simplement, à travers les œuvres du passé, enrichir la connaissance des élèves que l'on a.
Parfois, quand même, il a utilisé le terme de super-composition, de classe de super-composition.
Oui, parce qu'il pensait en effet que ce n'était pas simplement une classe de composition où on apprend les bases du langage instrumental, etc. Pour lui, une réflexion sur les répertoires, pas seulement les répertoires occidentaux, mais aussi les musiques d'Orient, et aussi le grégorien, aussi, enfin, tout cet énorme chantier qui n'était jamais enseigné dans les conservatoires, et notamment au Conservatoire de Paris, eh bien, pour lui, c'était de la super composition.
Mais la classe de Messiaen s'est trouvée comme ça à la croisée de chemin, à un moment clé, juste après-guerre, où l'enseignement du conservatoire n'intégrait pas du tout jusqu'à maintenant les révolutions de l'école de Vienne, Schönberg, Berg et Webern. Bref, tout le début du dodécaphonisme et puis ensuite du sérialisme. Et Messiaen, lui, révolutionne l'enseignement parce qu'il fait à la fois, il est tourné vers le passé, si on peut dire, et puis il est aussi ouvert et il est un des précurseurs de ces nouveaux mouvements musicaux en France. On disait même que cette classe d'analyse dégageait une sorte d'odeur de soufre.
Oui, bien sûr, bien entendu, mais il est le premier à m'avoir souvent dit, mais vous savez, à cette époque, on n'enseigne même pas les concertos de Mozart. Bon, donc la révolution au conservatoire, c'est pas d'apporter la musique contemporaine, c'est d'apporter des informations sur tout un grand répertoire qui n'était pas du tout en usage, et notamment les concertos. Mais il était très mozartien, c'est vrai, il a fait beaucoup de textes sur les concertos de Mozart, pour lui c'était un des répertoires privilégiés de sa réflexion, et donc alors peut-être que c'est un peu excessif en disant qu'on ne l'enseignait pas du tout, mais c'est vrai que Mozart n'était pas vraiment enseigné à l'époque au conservatoire, et les musiques très anciennes non plus, donc il a choisi des thématiques sur les analyses, et en plus de ça... Mais
il était plus par thématique qui abordait comme ça différentes périodes musicales plutôt que d'aborder l'époque baroque. C'est son originalité.
Et il a souvent raconté que chaque année, il changeait le thème. Ça aurait été facile pour lui de faire un cours sur une saison et puis tous les ans refaire le même cours. Non, ça ne l'intéressait pas du tout. Donc il avait un thème pour chaque année scolaire, je dirais. Bien. Et quand je lui posais la question, mais comment choisissez-vous le thème ? Il me répondait, au début de l'année scolaire, donc, les élèves sont là, je les regarde, je vois leur visage, je regarde leur expression, et j'entre un peu dans dans ce qu'ils sont, dans leur intimité. Et c'est là où je décide du thème de la classe. Et alors, les thèmes, par exemple, ça a été la musique pour piano, par exemple. Ça a été le cas, d'ailleurs, Stockhausen a souvent raconté que l'année où il était élève de Messiaen, il est resté une année, c'était le piano qui ne l'intéressait pas trop finalement. Mmh. Ça a été un peu décevant pour lui. Bien. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que par exemple, une année, il a pris comme thème l'opéra. Alors, l'opéra...
Les opéras de Mozart, évidemment.
Alors, les opéras, ça c'est vraiment intéressant. Quels sont les opéras qu'il avait retenus ? Alors, ça commençait à Monteverdi, à l'Orfeo. Ensuite, on passait à Mozart, oui, dont Giovanni était le grand morceau de bravoure. Inutile de vous dire que Così fan tutte, ça ne devait pas beaucoup l'intéresser. Il trouvait un sujet un peu impertinent et léger. Mais pour lui, le Don Juan était évidemment la clé de voûte de ce répertoire. Et puis, il étudiait Pélias, naturellement, puisque ça a été le grand choc de sa jeunesse, mais aussi Boris Godounov. Dans les plats contemporains, Wozzeck.
De Berg.
Pas Loulou, parce que Loulou, il trouvait que c'était tellement immoral qu'il était écœuré par Loulou. Il avait un code moral très très fort, hein, Messiaen. Bon, donc c'était aussi une référence importante. Bon. Et puis, je lui ai posé la question, est-ce que vous avez fait aussi, vous avez des œuvres de répertoire italien ? Alors non, parce que ça n'intéressait pas du tout Rossini, Verdi, Puccini, etc. Et il m'a fait cette réponse qui m'avait frappé. Il m'avait dit, comme il faut bien quand même faire un opéra populaire, j'ai choisi Carmen qui est le moins mauvais. Et il a également fait, alors il y a Wagner bien entendu. Pour lui, Tristan était une chose très très importante, donc il y a évidemment une part importante pour Wagner.
Donc il avait ces sortes de dada ou de clé de voûte, on va dire, Debussy, Pélléas et Mélisande, et aussi Stravinsky, hein, le
Sacre du
Printemps.
Et Berlioz aussi. Et Berlioz, je pense que dans les opéras, il a dû faire travailler la Damnation de Faust, j'imagine. Enfin, Berlioz était pour lui, parmi les références classiques, une référence essentielle.
Mm-hmm. Et donc il faisait des comparaisons qui semblaient totalement incongrues à l'époque, de passer comme ça d'une époque à une autre, et de reprendre un thème de Mozart et de dire, aujourd'hui on retrouve ça dans tel compositeur.
Mais vous voyez, vous parliez de Stravinsky. Mmh. Alors, bien entendu, Stravinsky, pour lui, ça a été très très important, mais il y a le bon et le mauvais Stravinsky pour lui. Mmh. Le bon Stravinsky, c'est le Sacre du Printemps, ouais. Parce que c'est toute cette période. Bon, déjà, Petrushka, l'Oiseau de feu, etc. Mais surtout le Sacre, parce qu'il a fait tout un travail sur l'écriture rythmique du Sacre. Il a parlé des personnages rythmiques, enfin bon, c'était très très important. En revanche, puisque on s'est allusion à l'opéra, il est évident qu'il n'a jamais parlé du Rex Progress de Stravinsky, qu'il trouvait sûrement très très mauvais. Bon, mais il n'était pas violent quand il n'aimait pas quelque chose, il n'était pas virulent contre, si vous voulez. Mais bon, Stravinsky, le mauvais Stravinsky, même l'histoire du soldat, il n'aimait pas du tout, par exemple. Bon. Toute la période néoclassique de Stravinsky, il n'entrait pas dans ce jeu du tout.
Et on raconte que certains élèves de la classe de Messiaen se rendaient à certains concerts de Stravinsky, du mauvais Stravinsky, comme vous disiez, et faisaient beaucoup de chahuts pour justement montrer leur désaccord.
Alors, il y a eu quand même une époque, parce que lui, Messiaen n'était pas le genre de personne à aller dans un concert et siffler, naturellement. Bon,
mais, Boulez plus.
Oui, Boulez. Donc, il y a eu, je crois que ça s'est passé une fois, mais ça a créé un souvenir. Je crois qu'il y a eu un fameux concert Stravinsky dans les années 50.
Avec impression quelques... norvégienne, si je crois bien.
Oui, qui est vraiment une œuvre très très faible, faut bien le dire d'ailleurs, de Stravinsky. Donc je crois que Boulez et quelques copains y ont été, et ils ont sifflé. Bon, et on les a... C'était la classe de Messiaen. Et les premiers élèves de la classe de Messiaen s'étaient donné un nom, ils s'appelaient les Flèches. Alors, les flèches, ça peut être meurtrier aussi, on le sait bien.
Pourquoi les flèches ?
Ah, c'est symbolique, on peut imaginer, bon, voilà. Les flèches.
Alors, un peu plus tôt, vous parliez de rythme, qui est un point central de son enseignement.
Oui.
Je crois que d'ailleurs, il était très novateur là-dessus,
en
enseignant les métriques grecques, les métriques hindoues. Donc, en généralisant, en fait, ou en rendant tout à fait accessible et possible, les métriques de 5 temps, 7 temps, et absolument abolir les mesures de 3 et 4 temps qui nous sont habituelles.
Il a d'ailleurs fait une année, dans ses cours d'analyse, une année complètement consacrée au rythme. Et puis, j'ai eu une autre expérience avec lui, pédagogique naturellement, dans ce domaine, puisque j'ai créé il y a longtemps une académie de musique contemporaine qui s'appelle le Centre Acanthe, où j'ai invité les grands compositeurs de notre époque, et j'avais invité Messiaen. Et Messiaen, c'était pas très commode qu'il vienne faire des cours, parce que cette manifestation donc, qui a été créée en 1967, se déroulait en Provence tout d'abord, et au mois de juillet. Et lui, toutes les périodes d'été, il les réservait pour aller composer dans la maison qu'il avait, dans un lieu qui s'appelle Petit Chais, dans le Dauphiné, qui était pour lui la merveille des merveilles, puisqu'il faisait un rejet absolu de nos grandes villes. Bon. Et donc il me disait chaque année, mais oui, mais je ne peux pas venir, vous comprenez, je suis dans ma maison, je compose, etc. Puis une année, il a quand même accepté, et il est venu en 87, donc il était déjà à la retraite du conservatoire. Il est venu en 87, il a fait une série de cours, c'était les derniers de sa vie, je crois d'ailleurs, sur la métrique justement. Et bon, on a tout enregistré d'ailleurs, on a tout ça en archive, et je dois dire que c'était assez calé quand même, vraiment. Mm-hmm. Bon, et ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'il a apporté beaucoup de choses à beaucoup de jeunes compositeurs de toute génération sur l'ensemble des répertoires et l'ensemble des données de langage, mais spécialement sur le rythme. Et quand on parle notamment avec Boulez, qu'est-ce qu'il vous a apporté, Messiaen, et Boulez a une réponse, il m'a transcrit son trouble rythmique.
C'est beau ça.
Voilà.
Il y a un peu deux pôles comme ça dans l'enseignement de Messiaen. Il y a le rythme et le sens de la couleur, comme il disait. Il mettait même des mots sur ces couleurs, des couleurs gris vert, des couleurs violettes. Et il essayait comme ça de faire passer ce sentiment. Dans un livre écrit par Jean Boivin sur la classe de Messiaen, on sent parfois l'ironie des élèves qui lui répliquent « Mais moi je suis daltonien, monsieur Messiaen ». Et comment il faisait pour passer comme ça ce sentiment de couleur ? C'est quand même très, très personnel.
Alors, je peux dire d'abord que lui, le Messiaen le disait régulièrement, en fait, c'est un phénomène physique, physiologique, je dirais même. Il disait, moi, je suis un cas particulier. Hein, quand j'entends des sons, même quand je lis la musique, je vois des couleurs. Et donc, quand il entend la musique, par exemple, la musique de Mozart, il voyait des couleurs très riches, très composées, très complexes, parce que le violet est une couleur qu'il aimait beaucoup, mais enfin, violet, c'est un peu sommaire, c'était au moins du pourpre violacé, parsemé de grains d'or, ou je sais pas quoi, enfin, c'était des couleurs extrêmement complexes, si vous voulez. Bon. Et donc, il l'a beaucoup écrit, il a, d'ailleurs, dans le mot couleur est très souvent utilisé par lui-même dans des titres d'œuvres, les couleurs de la Cécelette, des choses comme ça, mais il avait des grandes tristesses par rapport à ses élèves. Et il disait souvent, bon, moi j'ai les vrais problèmes de ma vie, c'est que je parle à des jeunes élèves de chants d'oiseaux, ils n'ont jamais vu que des moineaux dans Paris, je leur parle de la foi religieuse, et ils sont tous mécréants, et je leur parle de couleurs qu'ils n'ont jamais repérées, et qu'ils n'entendent pas du tout. Bon, donc si vous voulez, il y a, en effet, les élèves ont beaucoup souri, hein, les couleurs, bon d'accord, les couleurs, bon. Mais Messiaen, à titre personnel, c'est pour ça que Messiaen, c'est vraiment quelqu'un qui avait une personnalité tout à fait particulière. C'est pour ça qu'on a longtemps pensé qu'il était une sorte de marginal, je dirais presque un excentrique, qui n'entrait dans aucun moule. Et encore aujourd'hui, c'est une œuvre totalement à part, vraiment. Parce que ce problème des couleurs, par exemple, on voit pas beaucoup de compositeurs, notamment parmi les modernes, qui peut entrer dans ce jeu. Donc, mais pour lui, il y avait vraiment, dans l'histoire de la musique, les bons compositeurs et les mauvais. Les bons sont les compositeurs colorés, et les autres, c'est les compositeurs non colorés. Et pour lui, les compositeurs les plus colorés, c'était Mozart en numéro 1, Debussy en numéro 2, et Wagner aussi. En revanche, il n'avait pas de passion, il ne voulait pas le dire, bon, il n'avait pas de passion pour Bach ou pour Beethoven, parce qu'ils ne sont pas colorés.
Mais ce sont de bons rythmiciens pour toi.
Non. Ce ne sont pas justement du tout des bons rythmiciens, d'après Messiaen. Pas du tout. Parce que pour Messiaen, par exemple, quand on lui disait « Mais qu'est-ce que c'est qu'une musique rythmique ?» Alors, il disait « Voilà, la musique non rythmique, la mauvaise musique rythmique, c'est la musique militaire et le jazz. Parce que c'est des rythmes réguliers. Et l'intérêt d'une musique rythmique, c'est des rythmes riches, complexes et irréguliers. » Or, le mouvement rythmique chez Bach est un mouvement régulier. Donc, ce n'est pas de la musique rythmique. Enfin, moi, je traduis la parole de Messiaen.
Oui, oui,
on ne peut pas partager cette opinion. Oui. Mais la pulsion rythmique, ça ne l'intéressait pas. Et le jazz, pas du tout. Alors, il y avait certains de ses élèves, oui, puisqu'on parle pédagogie, qui s'intéressaient au jazz, naturellement. Il faut dire qu'il n'a jamais entendu ce qu'on peut appeler du vrai jazz. Il a entendu les caricatures de jazz.
Ou a entendu la période swing. Pourtant, en 40, c'était quand même le début du bebop,
oui, Parker. Mais il y avait deux problèmes. Il y avait d'abord le problème rythmique. Et il disait le jazz est un voleur, parce que le jazz s'empare d'un langage rythmique et l'appauvrit. Il assimilait le jazz à toutes les turpitudes, à la drogue, aux boîtes de nuit, au péché. Et il avait vraiment ce code moral. On parlait il y a quelques instants de Lou Lutberg. Et c'est toujours présente chez lui. Donc le jazz était le péché.
Et oui, et pourtant le jazz effectivement avait commencé à intégrer les rythmes de 5 temps, les rythmes de 7 temps. Et il est.
Non, mais il n'a pas été jusque-là. Il ne savait pas ça. C'était extrêmement rudimentaire. Ça l'intéressait pas.
Vous parliez un peu plus tôt de la volonté de Messiaen d'ouvrir les oreilles de ses élèves et il avait une expression qui était de l'audition intérieure. Je crois qu'il essayait de susciter comme ça chez ses élèves une audition intérieure qu'il disait qu'il n'avait pas.
Je pense que c'est vrai, d'ailleurs, pour tous les compositeurs. Hein, l'audition intérieure, beaucoup de compositeurs, de musiciens, n'ont pas besoin d'entendre de la musique pour rentrer dedans. Hein, la lecture de la partition leur suffit. Ce qui est toujours étonnant, même pour un mélomane moyen, si vous voulez, on dit, mais comment est-ce que vous pouvez vous rendre compte de musique si vous l'entendez pas? Non, l'écoute n'est pas obligatoire. Et pour lui, bon, ce qui était très important, c'était l'écoute intérieure, c'était l'audition intérieure.
Alors parlons un peu de Messiaen dans le contexte de l'histoire de la musique. Il se trouve donc professeur de cette classe d'analyse dans les années 50. Il a comme élève Boulez, qui est tout de suite très créatif. Et d'ailleurs, je crois qu'il intègre très vite dans sa classe d'analyse des œuvres de Boulez que Boulez vient de composer.
Oui, absolument.
Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Peut-on dire que Messiaen est un peu responsable du courant sériel qui émerge dans ces années-là? C'est la grande question.
Ce qu'on peut dire, qu'il l'a cautionné. Alors, responsable, non. Je pense que la modernité dans cette époque, juste après la guerre, ou même à la fin de la guerre, si vous voulez. Donc, tout ça a commencé en 43, et c'était la première vague des compositeurs. Donc, il y a eu assez vite après Stockhausen, notamment, mais qui n'est pas resté longtemps. Contrairement à ce qu'on dit d'habitude, Xenakis n'a jamais été son élève.
Il est venu prendre des conseils, c'est ça?
Alors, non, mais c'est très intéressant. C'est une petite parenthèse, mais très intéressant, parce que Xenakis, qui est un peu plus âgé, enfin, à quelques années près, avait fait la résistance en Grèce, il avait décidé de quitter, il était condamné à mort d'ailleurs par les politiques là-bas, il avait décidé de partir et il avait fait des études d'architecture, et il est arrivé à Paris, avec 65 centimes en poche, etc. Bon, et on lui a dit, la musique, la modernité, il y a un grand homme en ce moment, c'est Messiaen qui est professeur au conservatoire. Donc il a pris rendez-vous avec lui, il lui a montré un certain nombre de partitions qui sont ses premières œuvres, et Messiaen a regardé et a dit, c'est totalement personnel ce que vous faites, eh bien je vous donne un conseil, ne venez pas travailler ni avec moi ni avec quelqu'un d'autre. Il faut que vous ayez votre propre réflexion, vous avez une voix, vous continuez dans votre voix, ça ne sert à rien de reprendre le vocabulaire musical de A à Z, notamment avec moi. Donc, alors, bien entendu, ils se sont beaucoup rencontrés. Peut-être que même à titre d'auditeur, Xenakis a suivi certains cours de Messiaen, c'est vrai. Mais il n'a pas été, à proprement parler, élève.
Et c'était ça aussi la grande force de Messiaen, c'est de pouvoir s'adresser spécifiquement et personnellement à chacun de ses élèves, sans dogmatisme, sans lui imposer son propre langage.
Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, il aimait beaucoup ses propres élèves dans leur diversité. Il était très fier de dire que dans sa classe, il y avait des personnalités totalement contradictoires, paradoxales. Et ce qu'il voulait, c'est que chacun suive son chemin de la meilleure façon. Mais il ne voulait pas du tout transformer sa classe dans un moule. Et d'ailleurs, ce qui est vrai aussi, c'est que, à part quelques exceptions, très peu d'ailleurs finalement, personne n'a fait du sous-Messiaen. Son langage était un langage qui est très typique, très typé, si vous voulez. C'est quand même un cas un peu particulier, parce qu'il y a eu du sous Bartok, des sous Stravinsky, des sous Webern, des sous tout ce qu'on peut imaginer. Bon, et des sous Debussy, il y en a eu des tonnes. Mais c'est vrai, Messiaen, non. C'est un vocabulaire refermé sur lui-même. Alors, c'était pas une volonté de sa part, hein. Bon, et en plus de ça, c'est vrai que ce vocabulaire, il l'a créé lui-même dans les premières années de son œuvre, et il y a eu une vraie permanence jusqu'au bout. Il n'a pas beaucoup évolué. Et c'est aussi vrai, donc, que ses élèves, puisqu'on parle de ses élèves, sont pas toujours entrés dans sa propre musique.
Revenons sur son rapport au sérialisme, qui est assez ambigu, puisqu'il semblait...
Oui.
Parce que je crois que ses élèves, vous m'arrêtez si je me trompe, venaient surtout dans les années 50, début des années 60, avec des travaux qui étaient beaucoup inspirés du sérialisme. Il leur disait ni que c'était bien, ni que c'était mal. Enfin, il semblait quand même porté par ce courant dominant. Il n'osait pas aller contre, mais il n'encourageait pas non plus, il n'en faisait pas non plus un dogme. Il était un peu flottant quand même sur cette question.
Oui, oui. C'est un vrai sujet ce que vous évoquez là. En fait, les compositeurs les plus aventureux, je dirais, de cette génération ont été marqués au départ un peu par Schoenberg et surtout par Webern. Bon, ça c'est le courant boulésien. Et donc la musique sérielle, souvent dans une sorte de rigueur, d'ascétisme, je dirais même très fort. Bon, lui, c'était pas sa musique. D'ailleurs, il n'est jamais beaucoup entré dans la musique de Schoenberg. C'était quelque chose, il dit de Webern d'ailleurs. Bon, il constatait que c'était important, mais c'était pas son répertoire de prédilection. N'empêche que, à un moment donné, il s'est un petit peu habitué à cette musique et il a voulu aussi un peu la fréquenter, je dirais. Et en effet, au début des années 50, il a écrit, ça c'est assez intéressant d'ailleurs, il a écrit des pièces pour piano qui s'appellent les quatre études de rythme et notamment une pièce qui était un peu emblématique, le mode de valeur et d'intensité. Et dans cette œuvre, mode de valeur et d'intensité, qui dure quelques minutes, il a utilisé des échelles de valeur qui étaient des séries. Et pas seulement des séries de hauteur, comme c'était le cas avec Schoenberg, mais des séries d'intensité, des séries de rythme. Il avait, dans le fond, fait ce que des compositeurs comme Boulez et d'autres feront ensuite. Ils utiliseront la série généralisée.
Ça a été chaque paramètre de musique.
Voilà, ça a été une période. Rythme, hein, ça a été une période, et puis il a fallu le dépasser, parce que c'était quand même une période très, très rigide, et ça ne pouvait pas marcher dans le temps pendant très, très longtemps. Mais lui, il a écrit ses œuvres. Alors, j'ai retrouvé des analyses des grands livres de son traité, où il parlait de cette pièce et il faisait une auto-analyse en montrant que cette œuvre, finalement, il le disait modestement, mais enfin cette œuvre avait annoncé un certain nombre de mouvements de l'époque. Et puis, des années plus tard, j'ai eu l'occasion de l'interroger là-dessus. Et alors, il est revenu sur tout ça. Il m'a dit « Oh oui, on a fait beaucoup d'histoires avec ces hommes, mais c'est rien, vous savez, c'est quelques minutes de musique, ça n'a aucune importance, c'est vraiment très peu de choses. On a beaucoup surestimé l'importance de ces œuvres. » C'est drôle parce qu'il a un peu renié cet épisode qui était un épisode de modernisme dans sa vie, qui a duré peu d'années et qui a été quand même influencé par ses propres élèves et notamment par Boulez.
C'est surtout les oiseaux qui ont permis à Messiaen de s'échapper du dogme sérialiste ?
On peut le dire, oui.
Ou sériel, plutôt.
Oui, sérialiste. On peut le dire. Je pense que les oiseaux, on peut faire d'autres comparaisons. On peut dire que on a vécu au XXe siècle dans une confusion de langage un peu compliquée, que les solutions ont été diverses, que Schoenberg a cherché une solution dans un langage très élaboré, mais toujours dans la tradition, quand même, une tradition évolutive, une tradition. En revanche, quand vous prenez, par exemple, le cas de Bartok, il s'en est échappé avec le folklore, par exemple. Bon, ça a été un nouveau matériau pour lui. Un matériau aussi qui était, d'une certaine façon, un peu naturel, puisque c'était les chansons qu'il avait recueillies dans les voyages, etc. Et pour Messiaen, les oiseaux, c'était la même chose. C'est une matière naturelle. En plus de ça, il a toujours dit, les oiseaux, c'est la plus belle créature de Dieu. Donc, il se rapprochait de la divinité aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres pour le comprendre. Mais je pense qu'à un moment donné, le renouveau de son langage a été tout à fait lié à sa recherche ornithologique.
Alors parlons aussi de Messiaen, du rapport de Messiaen avec un autre courant dominant à l'époque, qui est la musique concrète, groupement de recherche musicale de Pierre Schaeffer. Il était quand même assez proche de Pierre-Henri, le numéro 2, on va dire.
Pierre-Henri a été un de ses élèves.
Qui a été un de ses élèves en classe. Et puis, il a fait quelques essais quand même. Mais il semble aussi, là, avoir gardé un rapport un peu ambigu. J'ai trouvé une citation où il dit « Dans la musique concrète, le hasard est roi. Nous sommes loin du compositeur génial en proie à une inspiration fulgurante. » Il tenait à garder cette conception un peu romantique du compositeur.
Oui, bien sûr. Non, bien sûr, il était romantique. Il était romantique. Et à une époque de grande austérité, il était lyrique. Donc il était un peu en rupture sur beaucoup de points, et même sur ce point-là. En effet, il a été dans les studios de la musique concrète de Pierre Schaeffer. Il a fait une œuvre qui s'appelle Les timbres durés, je crois. Et puis, il n'est pas content de cette œuvre. Il m'a dit, bon, j'ai jamais recommencé, parce qu'il a dit, je n'étais pas doué pour ça. Mais ce que vous citez est assez intéressant aussi sur le hasard. On n'a pas le contrôle de ça. Bon. Et pour lui, le comble de l'absurdité, si j'ose dire, c'était quand même la démarche d'un compositeur très célèbre aussi, qui est John Cage. Puisque John Cage a beaucoup joué sur les notions de hasard. Moi, je me souviens de John Cage. Donc, quand je l'avais interrogé, il avait fait une œuvre qui s'appelle 4 minutes 30 secondes de silence. Hein. Bon, je sais plus si c'est 4:30 ou 4:40, je sais plus, peu importe. Bon. Et un jour, je l'ai interrogé sur cette œuvre et Cage a fait une réponse qui était donc le contraire de ce que pourrait penser Messiaen. Il disait, oui, cette œuvre, c'est bien parce que quand je suis par exemple dans le métro à Paris, je me la joue et c'est jamais deux fois pareil. Jamais Messiaen n'aurait pu entrer dans ce type de langage, puisque, et d'ailleurs, une œuvre devait être écrite d'un bout à l'autre et pas retouchée. Contrairement à la démarche de Boulez, parce que Boulez a composé beaucoup d'œuvres sur de nombreuses années. C'est-à-dire qu'il a pris une œuvre et puis il l'a reprise 15 ans ou 20 ans ou 30 ans plus tard. Mais si on disait, elle est terminée, c'est fini, on n'ajoute rien, on ne change rien. Parce qu'il y a une détermination. Dans le fond, on est déterminé dans cet univers.
Donc Messiaen restait attaché à la partition. C'est peut-être ça aussi l'une des choses dominantes de
la partition. Absolument. Alors il y a une chose assez drôle, puisque vous évoquez cela. Il était lié à la partition. D'abord, probablement aussi... Alors, c'est assez drôle aussi, parce que comme organiste, il est improvisateur quand même. Bon, il a beaucoup improvisé, et puis un jour il a arrêté, parce qu'il a dit, oui, je sens que l'improvisation me pompe, en gros mots, c'est peut-être pas le mot qu'il a pris, bon, l'inspiration, muse mon inspiration. Donc, il a arrêté d'improviser. Mais il avait quand même beaucoup, beaucoup improvisé pendant très, très, très longtemps, mais dans son propre langage, en le contrôlant. Autrement, ce qu'il voulait, évidemment, c'est contrôler au maximum la partition aussi. Et d'ailleurs, il y a un élément qui n'est pas indifférent, mais c'est encore peut-être un mystère. Pourquoi Messiaen, lorsqu'il a été allé au concert de ses propres œuvres, il y allait autant que possible, hein. Il faisait des voyages, on l'invitait, il y allait, à Paris bien sûr, il suivait les répétitions, etc. Et il avait toujours la partition grande ouverte sur ses genoux. Alors, on s'est posé la question, est-ce que c'est parce qu'il la connaît par cœur, il voulait repérer les fautes du chef d'orchestre, ou pour avoir une attitude, je sais pas, j'ai jamais osé lui poser la question brutalement comme ça, mais en tout cas, il y a une symbolique partition écrite.
Alors, le rapport de Messiaen avec ses propres œuvres est un peu spécial aussi, si j'ai bien compris. Il parlait beaucoup de ses compositions, il osait en parler dans sa classe d'analyse à la fin des années 40, au début des années 50, il en parlait assez facilement, les élèves l'interrogeaient. Et il semble que dans les années 60, il a été beaucoup plus taiseux sur cette question, il en parlait moins facilement, et il parlait moins facilement aussi de ses contemporains. Est-ce que vous avez vu cette
évolution? Je ne suis pas sûr, vraiment. Non, moi,
c'est
pas...
une évolution que note Jean Boivin dans son livre.
Bon, on peut dire aussi que quand il a commencé cet enseignement, dans les conservatoires en général, et à Paris notamment, on n'en parlait pas du tout. On ne parlait pas de ces jeunes compositeurs.
Donc il était nécessaire d'en parler.
Voilà. Mais, alors, je pense qu'il en parlait aussi dans des petits cercles, hein, pas simplement au moment d'une classe où il y avait 30 personnes, bien entendu. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il a eu toujours une très, très grande curiosité pour ce que c'est les jeunes. Alors, les élèves, bien sûr, mais pas seulement les élèves. Et jusqu'à la fin de sa vie, je l'ai toujours vu régulièrement dans les concerts de musique contemporaine. Quand on avait Festival de Royan, il était dans le comité d'honneur. Bon, c'est très bien de donner son nom de comité d'honneur, et puis d'avoir accepté de faire le concours. Bon. Mais il était là du premier au dernier jour, il suivait tous les concerts. Et il les suivait pas simplement parce que je suis professeur, ça fait plaisir à mes élèves que je sois là, mais c'est parce que c'est un intérêt personnel.
Et il avait peur de se faire dépasser aussi par la jeune génération, d'être un peu dépassé par les événements?
Alors, non, enfin c'est jamais aussi simple que ça de répondre oui ou de répondre non, naturellement. Mais j'ai quand même une anecdote assez drôle à ce sujet. C'est une anecdote liée à Royan, et curieusement d'ailleurs, c'est une anecdote qui date de 1968, dont on parle tellement actuellement, mai 68. Bon. Et c'est vrai qu'au Festival de Royan, qui se passait au mois de mars, on a eu les premiers chahuts des étudiants avant mai 68. Ça a été parce qu'il y avait plein de gens qui venaient, des jeunes de Paris, d'étrangers, etc. C'était très turbulent. Et en mars 68, on a eu l'avant-propos de mai 68, je dois dire. Et on avait fait un concert avec Messiaen, qui était dans un petit château, qui était aux environs. Et on avait fait, et comme le concours avait commencé l'année d'avant, j'avais invité le pianiste Michel Béroff, qui avait eu le Grand Prix. Et on avait fait un programme avec une œuvre nouvelle de Xenakis, que j'avais demandé à Xenakis, qui s'appelle Les Rechants. C'est une œuvre chorale pour 12 voix et qui est une œuvre dédiée aux prisonniers politiques. Mais enfin, ce n'est pas le contexte politique qui comptait. Bon. Et donc, on avait un programme avec l'œuvre de Xenakis, Les Rechants de Messiaen et le piano avec Michel Béroff. Et je me suis dit, quel ordre? Bon, évidemment, la création de Xenakis était assez courte, c'est nuit. Et une nuit des Xenakis, mais il faut le terminer par Les Rechants, parce que Messiaen, c'est quand même le grand maître, et ça. Donc, on avait commencé par Nuit, on avait fait ensuite les pièces de piano de Messiaen par Béroff, on avait terminé par Les Rechants. Nuit, dans ce contexte de jeune, de turbulent, enthousiaste, ça a été un énorme succès, il a fallu le bisser, bon, il y a peut-être contexte politique aussi, bon. Ensuite, il y a eu le piano, et puis après, Les Rechants, qui est une très belle œuvre, enfin une œuvre qui était un peu plus ancienne. Et à la fin des Rechants, il y a des gens qui ont à peine sifflé, mais un peu sifflé, et il y en a qui ont crié Xenakis. Et à la fin, je me souviens très très bien, je suis sorti avec Messiaen, et Messiaen, d'un air un peu triste, me dit, vous voyez, quand on a créé les Rechants, on m'a sifflé parce qu'on trouvait que c'est trop moderne, maintenant on me siffle parce qu'on trouve que c'est pas assez moderne. Donc, si vous voulez, il était, mais il a été toute sa vie critiqué et sifflé. Il en a souffert. Bon, bien sûr, au début, il y a eu des articles effrayants sur lui. À l'époque des petites liturgies, il y a eu des horreurs qui ont été écrites sur lui et qui l'ont quand même marqué vraiment, qui l'ont beaucoup peiné. Mais à la fin de sa vie aussi, parce que en 83, quand il y a eu la création de Saint-François à l'Opéra de Paris, il y a eu quelques articles qui étaient vraiment abominables et qui l'ont peiné aussi, vous voyez. Il n'y a pas une adhésion unanime de tout le monde.
Oui, et puis il était dans cette position un peu délicate de devoir accoucher comme ça de nouveaux compositeurs et de devoir suivre ce qu'ils font et en même temps de garder son langage personnel sans...
Oui, mais c'était, on peut dire qu'il y a eu quand même deux vies pour lui, parce que les deux vies qui étaient quand même, qui avaient à la fois des imbrications et puis un peu indépendantes aussi, il avait sa vie de compositeur et sa vie de pédagogue. D'autant plus, comme on le disait tout à l'heure, il n'a pas été pédagogue uniquement par utilité, mais il l'a été parce qu'il aimait ça. Donc il s'est beaucoup, beaucoup investi. D'ailleurs, c'est vrai, toute sa vie, il a beaucoup composé. Quand on regarde la liste des œuvres très très longues, mais c'est vrai qu'il écrivait surtout sa musique l'été, parce que pendant l'année, il n'avait pas le temps. Il avait beaucoup, beaucoup de cours au conservatoire. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il faisait ses cours, donc c'était rue de Madrid à l'époque, naturellement, et à la fin des cours, il y avait ses élèves qui lui posaient des questions.
Ou qui lui amenaient des compositions.
Oui, bien sûr, ou qui posait des questions. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait le fait que beaucoup de gens qui voulaient lui parler, à partir du moment où il est devenu un peu célèbre, dans un petit milieu en tout cas, des gens lui proposaient de venir assister à un concert, de faire une conférence, de faire je ne sais plus quoi. Et les gens savaient très bien qu'on ne pouvait pas le joindre. Il ne répondait pas du tout au courrier, il ne répondait pas au téléphone. La seule façon de répondre, c'était de l'attendre à la fin de sa classe. Donc il terminait sa classe à midi et il y avait la queue. Parce que c'est quelqu'un qui prenait toujours son temps. La notion du temps qu'il avait était complètement orientale. Bon, c'est-à-dire que si on lui posait une question qui demandait une réponse de 20 minutes, même s'il y avait 10 personnes derrière, il prenait les 20 minutes pour répondre. Ce qui fait que sa classe terminait à midi et il n'avait pas fini avant 14 heures. Il était pendant 2 heures à répondre à tout ce qu'on lui demandait. Donc ça veut dire pour lui, c'était sa vie de Paris. Et puis il y avait la vie d'été, où c'était la vie de compositeur, où il écrivait de la musique, ou bien entendu dans sa maison de petit chat, il n'y a pas le téléphone, etc.
Et vous pouvez écouter les oiseaux
Oui, alors écouter les oiseaux, oui, mais écouter les oiseaux, il l'a fait d'une façon permanente, et pas simplement pendant l'été dans les Alpes. Hein. Il a fait des voyages ornithologiques. En France, il a été dans les Charentes, il a été en Sologne, et puis il a été... Et il y a quand même une chose assez drôle par rapport à... Quand il a écrit Saint-François... À l'époque, il a fait un très très grand voyage, il a été en aller-retour en Nouvelle-Calédonie. C'est quand même pas très très proche. Bon, et il a dit à sa femme Yvonne Loriot, bon, dans 15 jours on part, on fait un saut en Nouvelle-Calédonie. Et il a pas voulu lui dire pourquoi. Et en partant, il a dit, je vais te dire pourquoi, c'est parce que je voudrais entendre un oiseau. Qui est la gérigone, qui est un oiseau qui est attaché au rôle de l'ange dans Saint-François. Et donc, il a fait l'aller-retour en Californie pour noter le chant de cet oiseau. Un peu particulier.
Claude Samuel, vous parliez un tout petit peu plus tôt de ces moments de fin de classe où beaucoup de choses se jouent. Et dans le livre c'est un livre de témoignages qui recueille plusieurs témoignages d'anciens élèves, donc composé par Jean Boivin. Il relève que plusieurs élèves étaient un peu frustrés du silence de Messiaen, qu'il faisait des remarques assez laconiques, qu'il pouvait regarder longuement les partitions de composition que lui présentaient ses élèves, et puis il faisait très peu de remarques et surtout il ne révélait aucun de ses propres secrets de composition, des secrets artisanaux en fait. Et c'est Michael Levinas qui dans ce livre parle de cette frustration de ne pas pouvoir toucher de plus près en fait le maître.
Oui, je crois que beaucoup de jeunes musiciens ont eu ce sentiment, c'est-à-dire que ils sont arrivés en se disant en une heure de temps, je vais apprendre tellement de choses que ça va transformer ma vie de compositeur. Et puis ils sont arrivés dans une classe où on parlait de choses qui n'intéressaient pas forcément, des couleurs ou d'autres choses, des chants d'oiseaux. Et puis finalement, leur premier sentiment a été une frustration. Mais ensuite, ils l'ont tous dit, les choses ont fait leur chemin. Et ensuite, ils ont eu une meilleure conscience de leur propre vie, de leur propre langage musical, et ça les a tous beaucoup enrichis. Moi, je dois dire, j'étais assez impressionné ces derniers mois. lorsque j'ai demandé à beaucoup de ses anciens élèves compositeurs s'ils acceptaient d'être dans le comité d'honneur de Mission 2008, à la célébration qu'on a cette année, ils m'ont répondu des lettres, ils ont tous dit oui naturellement, mais en plus de ça, ils m'ont envoyé des lettres de témoignages très fortes en disant « Depuis 30 ans ou 40 ans, je n'arrête pas d'y penser, mon passage chez Mission a été tellement important, j'ai pu prendre conscience de ce que j'étais, j'ai découvert énormément de choses. » Et c'est pas des choses que les gens ont ressenties sur le moment, à mon avis. Le premier mouvement, en une heure de temps, il va me donner des clés pour faire ma nouvelle œuvre. Mais non ! En revanche, il a posé des questions, il les a conduits à s'interroger sur eux-mêmes, et ça a changé leur vie, pas épisodiquement, mais profondément.
Ce silence de Messiaen s'apparente peut-être à un silence de psychanalyste. C'est une figure qui est là et qui permet d'accoucher un peu d'eux-mêmes.
Ah oui, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Exactement ça. Ils approfondissaient leur propre personnalité. Et d'autant plus que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne faisaient pas du sous-Messiaen. Ils n'essayaient pas de faire du sous-Messiaen.
Merci beaucoup, Claude Samuel, pour cette analyse d'Olivier Messiaen, pédagogue. Alors, je vais donner quelques références à nos auditeurs pour aller plus loin dans cette analyse. Donc, je citais un peu plus tôt le livre de Jean Boivin, La classe de Messiaen, paru aux éditions Christian Bourgois.
Je ne sais pas s'il est encore disponible, il est déjà un peu ancien, voilà. Mais peut-être.
Il est disponible en bibliothèque, en tout cas, c'est là que je l'ai trouvé. Il y a le livre du centenaire dont vous êtes responsable, Claude Samuel. Le livre du centenaire d'Olivier Messiaen, paru aux éditions Symétrie en 2008. Et un site internet www.messiaen2008.com. Et puis évidemment, vos livres d'entretien avec Olivier Messiaen. On parlait un peu plus tôt du livre d'entretien qui a été publié en 1967 et qui a été en quelque sorte réédité, annoté, enrichi, qui est reparu aux éditions Actes Sud en 1999 sous le titre Permanence d'Olivier Messiaen. Merci beaucoup, Claude Samuel. À bientôt.
Merci à vous.